Bienvenue sur la web radio du congrès de la mission laïque OSUI à Casablanca, du 9 au 11 mai.
Rebonjour à tous, vous êtes évidemment de nouveau sur la web radio du congrès du CVL OSUI à Casablanca, qui se déroule, je vous le rappelle, en ces jours de 9, 10 et 11 mai. Alors voilà déjà pratiquement deux jours que ce congrès se déroule conviviablement et après avoir traité avec vous durant les émissions précédentes de sujets assez divers, on se propose pour cette deuxième émission de s'y orienter vers une perspective nouvelle. On va d'abord expliciter le rôle du modèle des Nations Unies dans l'acquisition de la citoyenneté. Et pour nous aider à y voir plus clair, on va accueillir une élève du lycée Massignon un peu plus tard du nom de Malek. Et dans cette lancée, on ira ensuite réfléchir avec Madame Catherine Bizot, inspectrice générale de l'éducation nationale, et Madame Julie Higoué, conseillère pédagogique au MLF des États-Unis, sur la question du numérique, et plus particulièrement sur la question suivante, en quoi le numérique modifie-t-il notre conception de la citoyenneté? On enchaînera ensuite sur le développement durable, sur le sujet du développement durable, avec Monsieur Laurent Dess, directeur pédagogique de Wild Touch, qui va nous parler du trait d'union qui existe entre l'homme et la nature. Et ensuite, on clôturera l'émission par l'évocation de la médiation culturelle et des échanges métis, grâce à la présence de Monsieur Yannick Longuet un peu plus tard, et de la pianiste Marraine Gamper, qui nous viennent tout droit de Dijon. C'est parti!
L'école apprend la citoyenneté, thème du congrès de la mission laïque OSUI 2016.
Alors, débutons tout de suite par la question du numérique. Donc, je me tourne vers l'élève reporter Fatim Zahra.
Merci beaucoup, Dina. Bonjour à vous et merci de prendre un peu de votre temps.
À quel usage l'école devrait-elle utiliser le numérique afin de créer des acteurs plus autonomes, plus curieux et surtout ouverts vers le monde ? Parce que vous avez dit justement tout à l'heure, les murs tombent grâce à la technologie et au numérique.
Oui, mais c'est une question très difficile que vous me posez, parce que je ne pense pas qu'il y a des usages particuliers du numérique, même si dans certaines disciplines et dans certains enseignements, le numérique peut être plus pertinent que d'autres. Mais je pense que le numérique imprègne l'ensemble des usages scolaires. C'est-à-dire, quelle que soit la discipline enseignée, on a besoin aujourd'hui d'intégrer ces savoir-faire, ces capacités et ces pratiques numériques que les jeunes ont déjà acquises dans leur vie privée, chez eux, avec leurs amis, et qui influencent leur comportement, leur manière de penser, leur manière d'apprendre. Donc il faut que les professeurs soient capables d'intégrer ces manières d'apprendre des élèves, de communiquer, de s'exprimer, d'utiliser les réseaux, les outils numériques pour à la fois vivre et travailler. Et quand je dis travailler, je pense étudier. Le problème qu'on a aujourd'hui à l'école, c'est que si les professeurs comme les élèves utilisent beaucoup dans leur vie personnelle le numérique, ils l'utilisent peu pour étudier en classe, c'est-à-dire pour véritablement construire des savoirs. Construire des savoirs, découvrir des champs de connaissances, partager ces savoirs entre eux, construire ensemble aussi ces connaissances en les recherchant, en les partageant, en les réorientant par rapport à leurs questionnements, par rapport à leurs besoins. Donc c'est cette intégration du numérique dans l'ensemble des démarches d'apprentissage à l'école qui est véritablement l'enjeu aujourd'hui.
Justement, par rapport à ça, vous dites que le numérique n'est pas intégré à l'éducation, surtout à l'école. Mais franchement, moi, je pense que si, et d'une manière plutôt néfaste. Pourquoi ? Parce que les élèves, qu'est-ce qu'ils font ? Ils auront un devoir maison, ils vont chercher sur Internet, tout y est, tout est présent, ils auront leur devoir. Donc, c'est plutôt un aspect néfaste, justement, du numérique. Comment faire pour contrer cette...
C'est un bon exemple, parce que vous dites vous-même, pour faire leur devoir à la maison. Qu'est-ce que ça va être? Comment je vais illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure pour dire justement à l'école et pas à la maison? C'est-à-dire que s'ils ont un devoir à faire, ils vont faire des recherches à la maison, oui, sur Internet, comme vous dites. Mais le rôle de l'école et le travail à proprement parler de l'école, ça va être de leur apprendre à bien choisir les informations qu'ils vont trouver sur Internet, à les sélectionner en fonction de critères, alors déjà leur donner les repères et les connaissances nécessaires pour être capable d'évaluer la pertinence de ces informations, et puis de leur apprendre à bien utiliser ces informations. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est une jungle, une forêt plutôt qu'une jungle, et il y a de tout, le pire et le meilleur. Donc il faut leur donner les instruments intellectuels, les repères, les connaissances qui vont leur permettre de mesurer, d'évaluer, de valider ce qu'ils trouvent sur Internet en comparant, en hiérarchisant, en croisant leurs connaissances avec celles des autres, et de construire non seulement seuls, mais aussi ensemble, collectivement, une véritable connaissance fondée et une opinion aussi, pour certains sujets, fondée. Donc c'est ça que j'appelle utiliser le numérique à l'intérieur de l'école et pour l'enseignement, pour les apprentissages. Donc le numérique n'est ni bon ni mauvais en soi, hein, c'est comme le langage. Le langage, c'est la pire et la meilleure des choses. Vous savez bien qu'on peut utiliser le langage pour injurier, comme on peut utiliser le langage pour faire de la poésie, ou pour convaincre, argumenter. C'est simplement la posture intellectuelle et le souci qu'a l'école d'apprendre aux élèves à raisonner, comprendre, valider, vérifier et construire des savoirs solides.
Madame Julie Igoué, vous avez parlé d'une expérience sur Periscope, comme quoi vous avez vécu en live les événements du Bataclan. Et en fait, il y a eu une certaine polémique dans les lycées, je pense tous les lycées, que ce soit en France ou que ce soit au Maroc, ou en Ouzoui ou n'importe où, comme quoi les réseaux sociaux, ils focalisaient surtout sur des événements, par exemple, qui allaient se passer en France et aux États-Unis, mais pas, par exemple, au Liban ou en Palestine.
Alors, le premier élément, si vous avez déjà téléchargé Periscope, c'est que les événements, en fait, ils ne sont pas hiérarchisés. Au moment où vous rentrez sur l'application, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller en un lieu. Et à partir de là, on se balade sur une carte et c'est celui-là qu'on va repérer. Donc, tout type d'informations, tout type d'événements peuvent être posés sur Periscope sans aucune hiérarchisation. Le problème qui peut se poser, c'est les accès qui peuvent être limités. Et effectivement, en fonction de certains systèmes restrictifs gérés par les pays, on peut ne pas voir émerger des événements. La question, et je vais la poser peut-être pour vous, qui est à se poser là, au-delà de la hiérarchisation des événements, ou de se dire ils sont ou ne sont pas, parce que du moment que quelqu'un est là et peut le poser, ils y seront. La question, elle est, c'est qui le pose et qui et où, pour que je sache ce qui se passe. Voilà, on ne sait jamais. L'élément le plus important sur lequel j'aurais pu avoir un regard critique et le mentionner, je ne l'ai pas fait, c'est savoir qui tient le téléphone et où est-ce que je suis réellement. Voilà.
Vous avez aussi dit que les réseaux sociaux participaient à la déshumanisation, comme quoi Facebook, Twitter, tout ça participait à la déshumanisation. Mais en même temps, on peut voir qu'il y a une certaine solidarité sur les réseaux sociaux. Notamment, on nous appelle, nous, la génération hashtag. Hashtag je suis Paris, je suis Charlie, tout ça. Donc, c'est un peu contradictoire.
Alors, sur la déshumanisation, c'est pas les réseaux sociaux qui déshumanisent, peut-être j'ai sûrement pas été assez précise, c'est en fait les systèmes qui vont gérer les informations, c'est ce qu'on appelle les algorithmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui vont être générées par les algorithmes et qui ne vont pas laisser la place à l'apparition de certains éléments. Et ça n'est pas géré, en fait, manuellement. Et derrière des interdictions qui sont posées, une formule mathématique, on va se retrouver derrière certaines aberrances. Non, surtout pas. Surtout pas, les réseaux sociaux ne vont pas déshumaniser, mais ce qui va le faire, c'est cette notion d'algorithme qui est posée en fonction de systèmes de calcul qui parfois nous échappent, parce qu'il y a une gestion de l'information telle qu'il n'y a pas d'autres moyens de par lesquels passer, et c'est plutôt en ça qu'il y a peut-être des éléments de contrôle ou de rétro-contrôle à regarder. Non, j'espère pas que ça déshumanise, surtout pas.
Mais je pense pas non plus que ça déshumanise. Je pense qu'un réseau social, par définition, crée du lien social entre des hommes. En revanche, c'est quand on confie à la machine, à l'algorithme, la tâche de faire le tri elle-même plutôt que de penser soi-même une bonne hiérarchisation, un bon tri, que là il y a un risque de déshumanisation. Mais on ne parle pas des mêmes choses, hein, voilà. Donc il y a les deux dans le numérique et l'informatique. Il y a confier, déléguer à des machines un certain nombre d'actions qui ont leurs limites. Ces actions, elles peuvent aller très loin aujourd'hui, hein, avec les algorithmes. Mais Google fait le tri, par exemple, avec des algorithmes qui hiérarchisent les informations selon des critères qui ne sont pas forcément les miens.
hein, en particulier des critères qui sont liés à la publicité, hein, simplement parce que on a fait apparaître en première ligne les informations qui font l'objet d'annonces publicitaires. Bon, ça c'est pas par rapport aux critères de jugement critique forcément ce que l'être humain aurait choisi. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là que nous différencions le côté mécanique automatisé de l'algorithme de la relation sociale et humanisée du réseau social. C'est tout à fait différent.
Justement, vous êtes face à des lycéens et il y a un enjeu. Cet enjeu-là, c'est quoi ? C'est que je pense que nous, les lycéens, on n'a pas conscience, les jeunes, on n'a pas conscience des problèmes qui peuvent survenir avec l'Internet. On poste des... Vous avez parlé vous-même de publication. Mais la publication, peut-être que ça peut être quelque chose de bien, mais en même temps, il y a justement des limites. On peut voir justement dans les films que des personnes qui menacent avec des photos ou avec des vidéos, tout
le
ça.
Le cyberbullying.
Voilà, le cyberbullying, des gens qui se suicident. Comment l'école peut essayer de permettre aux élèves de prendre compte justement de ces...
Oui, alors, mais ce que vous dites, c'est déjà la réponse, c'est-à-dire que publier en soi n'est pas la solution. La solution, c'est d'apprendre à publier. Et pour apprendre à publier, il faut quand même, il faut se jeter à l'eau, hein. Donc, mais simplement, à l'école, les élèves sont encadrés. Ils ont des professeurs qui leur font prendre, comme vous l'avez très bien dit, conscience de ce qu'ils sont en train de faire, de l'impact que ça va avoir. Quand on est seul face à son ordinateur ou à sa tablette, on s'expose à des risques énormes sans en avoir toujours conscience. Quand on est accompagné par un enseignant et quand on teste les choses en classe et tous ensemble, on a, je pense, des prises de conscience, des moments importants, très forts, de prises de conscience qui doivent se faire à l'école. On ne peut pas laisser les jeunes seuls face aux outils numériques et surtout sur les réseaux sociaux. Il faut les accompagner. Ce n'est pas une évidence ce que je dis, parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est plutôt d'interdire et de fermer les portes. Quand on est à l'école, on ne s'occupe pas de tout ça. Ce n'est pas le rôle de l'école. Moi, je pense au contraire, et c'est la décision qui a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, c'est qu'il faut introduire ces pratiques dans l'école, y compris le copier-coller sur Wikipédia, y compris le moissonnage d'Internet. Toutes ces pratiques, il faut les introduire dans l'école pour apprendre à les faire au bénéfice de son propre développement et épanouissement personnel.
Donc vous dites qu'il y aura plus, l'école ne sera plus que dans un cadre scolaire, mais aussi dans notre vie privée, c'est ça ?
C'est-à-dire que l'école...
Elle va prendre...
Non. C'est on apprend à l'école ce qui va nous servir hors de l'école. On forme le citoyen de demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas citoyen dans l'école déjà. On apprend à l'être. Oui. On n'est pas un cyber citoyen à l'école, mais on apprend à l'être. Et si ça se fait pas à l'école, il y aura une grande inégalité entre ceux qui auront la chance d'avoir une famille, des parents qui leur apprendront ces choses-là, et puis ceux qui seront livrés à eux-mêmes. Donc le rôle de l'école, c'est aussi d'établir cette égalité entre des chances entre les élèves. Voilà. Donc c'est une responsabilité de l'école. Elle est difficile à prendre en compte, et c'est ce qui fait que je disais que les murs tombent. Ça ne veut pas dire qu'on sort de l'école et qu'on va se promener. C'est-à-dire qu'on reste dans l'école, mais les murs tombent. C'est une école ouverte sur le monde.
Merci beaucoup, voilà. Mesdames.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
La web radio du congrès de la mission laïque aux UI,
animée par les membres du Conseil de vie lycéenne du Maroc.
Vous êtes toujours sur votre web radio préférée du congrès du CVL aux UI, et nous allons tout de suite continuer par la chronique d'une élève du lycée de Massignon qui explicitera le lien entre l'engagement au modèle des Nations Unies et la citoyenneté.
Bonjour. Donc, à votre avis, comment appelle-t-on une manifestation où l'on peut parler de citoyenneté, laïcité, développement durable ou encore d'échanges, et ce, dans toutes les langues du monde ? Le congrès MLF, ça aurait pu être ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on en fait maintenant depuis 2 jours. Mais là, il s'agit du MUN, Model of United Nations. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler des deux. Ça fait 5 ans maintenant, ce projet, encouragé par plusieurs professeurs du lycée Louis Massignon, permet aux élèves non seulement de voyager un peu partout dans le monde, ce qui est d'ailleurs plutôt sympa, mais aussi et surtout de gagner en autonomie et beaucoup en confiance en soi. Mais bon, à quoi ça sert de voyager quand on peut faire ça nous-mêmes ? Et oui, en 2016, nous avons du nouveau, car quand d'autres sont occupés avec la COP22, notre lycée organisera pour la première fois une simulation des Nations Unies, les MUN aux UI. Bref, cette conférence, tant attendue par nous les élèves, tournera autour du thème des ODD, mis en place par l'ONU en 2015, abritera plus de 300 personnes, sera discutée en trois langues, arabe, anglais et français, mais surtout se déroulera ici, à Bouskoura. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de tous nous revoir.
On enchaîne tout de suite avec les élèves qui ont participé au modèle des Nations Unies. Ismaël.
Bonjour.
Bonjour Ebla.
Bonjour. Bonjour Ebla.
Donc vous êtes des élèves qui ont participé, comme Gina l'a dit, au modèle des United Nations, modèle des Nations Unies. Vous avez participé à deux conférences, une à l'AE, le MFNU, et une à Genève, qui est Fairmount.
Oui.
Donc tout d'abord, vous avez présenté pendant le témoignage donc, quels étaient les enjeux du modèle des Nations Unies, mais j'aimerais savoir plutôt ce qui vous a touché et marqué lors de ces conférences.
Personnellement, ce qui m'a touchée dans cette conférence, c'est de pouvoir partager avec d'autres personnes, parce que les faire en interne, c'est on peut voir les points de vue des personnes de notre école, mais aller à l'international, c'est pouvoir rencontrer des personnes de toutes les nationalités, qui peuvent être espagnoles ou qui peuvent être grecques, et on apprend d'eux et ils apprennent de nous. En plus de développer l'éloquence et de développer une aisance à l'oral, on peut également apprendre d'autres choses, d'autres cultures. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment touchée dans ces conférences, en plus de ce que ça m'a appris.
Et j'aimerais aussi savoir quel impact cette expérience a eu sur vous en tant que citoyen en construction.
Mais, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, les MUN m'ont permis de découvrir ce qu'était la diplomatie, ce qu'était accepter les avis des autres et pouvoir négocier, pouvoir découvrir comment partager son avis et accepter celui des autres. Et c'est donc cet aspect principalement qui m'a permis d'être un meilleur citoyen.
Merci Ismaël. Donc enfin pendant le congrès, on a entendu à plusieurs reprises parler de citoyenneté à différentes échelles, notamment la citoyenneté terrestre. Donc j'aimerais vous demander comment ces modèles des Nations Unies peuvent participer à une réelle mise en place de cette citoyenneté terrestre.
Les modèles des Nations Unies représentent en général l'esprit des Nations Unies. Donc c'est un esprit qui est basé sur l'humanisme, donc sur l'acceptation de tous, qui est basé sur la coopération et sur l'humain en fait, et c'est dans cet aspect-là que les modèles des Nations Unies m'ont permis d'être en plus d'être un citoyen marocain, d'être un citoyen terrestre et d'être le même citoyen que les Espagnols, les Américains ou les Français que j'ai pu rencontrer.
Comme l'a évoqué Melek, un nouveau projet en train de se mettre en place qui est Osui Moon, est-ce que vous pouvez nous en parler?
L'année prochaine, on va avoir la première conférence de l'OSUI ici au Maroc. On est en train de le préparer en ce moment même. Ça va être une conférence trilingue qui aura lieu avec plusieurs comités en français, un comité en arabe et un comité en anglais, ce qui permettra vraiment de montrer la diversité des cultures qu'il y a dans l'OSUI. Ça regroupera environ 300 participants, dont 200 délégués à peu près. Et on est en train de le préparer en ce moment et on espère que ça sera une réussite.
Merci beaucoup, à toi Gina.
Et merci à toi Camille, merci beaucoup.
L'école apprend la citoyenneté, thème du congrès de la mission laïque aux UE 2016.
On va maintenant clôturer cette émission en parlant du développement durable et nous avons la chance d'avoir avec nous sur notre plateau à l'antenne monsieur Laurent Dess, directeur pédagogique de Wild Touch, qui nous parlera du trait d'union qui existe entre l'homme et la nature. Je lègue donc la parole à Iman.
Bonjour Monsieur Dess.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre métier ?
Alors, mon métier chez Wild Touch, c'est d'essayer de faire en sorte que la nature soit représentée dans l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, on vit dans des villes principalement et on oublie un petit peu ce lien avec la nature. Donc mon métier, c'est d'essayer de faire en sorte d'expliquer comment fonctionne cette nature et de créer aussi une émotion pour qu'on ait envie de la protéger, cette nature. Donc c'est un travail de production principalement audiovisuel où on travaille avec des réalisateurs et des scientifiques qui mélangent leur savoir-faire pour essayer de produire des vidéos explicatives sur comment fonctionnent les grands systèmes planétaires. Et après, un travail de diffusion auprès des publics.
D'accord. Et concrètement, quel est le côté pédagogique de votre métier ?
Le côté pédagogique, c'est quand vous mettez un réalisateur et un scientifique ensemble, ils n'ont pas du tout le même langage. Le scientifique, il va être très à cheval sur la façon dont on dit les choses. Le réalisateur, il va vouloir le faire avec de la poésie, avec son propre imaginaire. Donc, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les deux pour que ça soit scientifiquement vrai, mais en même temps, qu'on arrive à mettre cette poésie dans le discours du réalisateur. Donc c'est faire le lien entre la science et les arts finalement. Et après, proposer ça vers les publics.
Est-ce que vous avez des projets pour développer l'éducation à la citoyenneté à travers le développement durable?
Alors oui, on en a des projets. Nous, en ce moment, on essaye de mettre en place des expéditions à travers le monde dans les dernières grandes zones sauvages, l'Himalaya, l'Antarctique, le golfe de l'Alaska, des endroits où les gens ne peuvent pas aller et où il reste encore ces dernières zones où l'homme n'est pas encore présent sur Terre. C'est-à-dire que les activités humaines ont des impacts sur ces zones-là, mais l'homme n'y est pas présent. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer ces zones aux élèves pour qu'ils arrivent à comprendre que la nature, elle a un mécanisme qui fonctionne très bien et que ces mécanismes, ils sont merveilleux. Quand on apprend à les connaître, ils sont beaux et ils sont importants pour l'ensemble de l'équilibre de la planète. Donc le but, c'est d'envoyer des expéditions pour pouvoir donner la possibilité aux élèves d'interagir avec les corps expéditionnaires qui seront en live sur place et après reprendre l'ensemble des petites vidéos qu'on aura fait sur place pour refaire des programmes éducatifs plus complets où là on va éditorialiser les contenus pour vraiment expliquer comment fonctionne par exemple en Antarctique, comment fonctionne la biodiversité en Antarctique dans des endroits où il fait en moyenne moins 40 degrés et où les vents soufflent à 200 km/h par exemple. Et comment l'Antarctique est important pour l'ensemble de la machine planète Terre.
Merci beaucoup Monsieur Dess pour vos réponses. On espère qu'on aura l'occasion de vous revoir.
Ben, merci à vous.
Bienvenue sur la web radio du congrès de la mission laïque OSUI à Casablanca du 9 au 11 mai.
Maintenant, nous allons nous tourner vers quelque chose d'assez original, d'assez nouveau, puisqu'on nous parle beaucoup pendant ce congrès, mais on ne parle pas assez des échanges métis. Et on va plutôt aborder le thème de la médiation culturelle. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous à l'antenne Monsieur Yannick Longuet, qui est un metteur en scène, et Madame Marène Gamper, une pianiste, qui nous viennent tout droit de Dijon. Et je laisse donc pour ce faire les deux élèves reporters, Fatim Zahra et Iman.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Mademoiselle la pianiste, vous êtes suisse,
ouais.
Mais vous habitez en France.
Oui, c'est ça. Mmh.
J'ai cru comprendre que la notion de citoyenneté pour vous, c'est pas un terme, on n'en parle pas, on la vit cette citoyenneté.
La citoyenneté, ce mot pour moi, c'est très difficile d'expliquer justement avec tes mots parce qu'on met déjà des cases et c'est pas évident. Et je trouve, je me sens pas comme Suisse ni comme Française et moi je me sens vraiment comme citoyenne du monde. On entend souvent ces mots, mais moi je le vis vraiment et, parce qu'il n'y a pas un pays où je me sens à la maison ou dans une communauté. Plutôt un ensemble pour moi. Et dans la musique surtout, je me sens à la maison.
Vous vous retrouvez dans la musique, plus que dans la parole en fait.
Ça complètement.
Et pour vous, quelle est la place de la laïcité dans le monde de la musique?
Bah pour moi, déjà la musique c'est la religion en soi. Alors moi je suis déjà grandie, je ne sais pas... Pour moi, c'était toujours deux différentes choses aussi. L'éducation, c'est pour moi logique qu'elle n'est pas dirigée par la religion. Alors, pour moi, ça semble logique et évident aussi. Et c'est important qu'on apprend aux enfants les bases de la religion, mais de toutes les religions aussi, et qu'ils peuvent... faire leur opinion eux-mêmes mais l'éducation, ça ne doit pas être passé autour de la religion, c'est très important. Mais la musique, c'est une autre chose, c'est encore plus grand pour moi.
Est-ce que vous pourriez nous décrire votre projet avec Monsieur Mitterrand? C'est quoi votre projet?
On a plusieurs projets. Déjà, on n'est pas, Yannick, il n'est pas que metteur en scène, il est acteur à la base.
Comédien aussi.
Et comédien. Et moi, je suis pianiste, mais aussi comédienne. Et je suis aussi formée dans le théâtre. Et on est une compagnie de théâtre corporel, dramatique et de musique classique. Et on travaille avec plusieurs metteurs en scène dans plusieurs pays en Europe. Et on crée des spectacles, une côté, et autour du mime et de la musique. Et à l'autre côté, on fait aussi des projets pédagogiques où on va justement intervenir aussi avec Mission Laïque Française.
Monsieur Longuet, alors vous êtes comédien et metteur en scène. Quelles sont d'après vous les valeurs fondamentales à acquérir afin d'être un vrai citoyen?
des valeurs fondamentales, je pense qu'il y en a quelques-unes comme le respect, l'audace. L'écoute. Il y a des valeurs qu'on pourrait dire fondamentales. Après, je pense que ça dépend de chacun. La différence aussi, ça c'est une valeur fondamentale. Et après, c'est vraiment différent par pays. On se rend compte, je voyage beaucoup. Et il y aura d'autres notions de l'hospitalité, ça pourrait être aussi une notion de citoyenneté. On pourrait développer des heures, mais c'est vraiment, bon, je répète, le respect, l'audace, c'est vraiment important aussi, puisqu'il faut aussi se confronter au monde dans lequel on vit. Donc ces valeurs, elles vont varier suivant les territoires, les régions où on va se trouver. Voilà.
Donc, je le rappelle, vous êtes comédien et metteur en scène. J'aimerais savoir en quoi le corps humain peut-il être un instrument afin de développer l'éducation chez les jeunes enfants.
Alors, le corps humain est très, très important puisqu'il est une base, c'est un instrument basique. Il faut avoir une conscience déjà importante de son état d'être humain, c'est-à-dire de son corps et de son esprit, qu'on dissocie souvent, mais qui sont intimement liés. À partir du moment où on connaît son corps et son esprit, on va pouvoir beaucoup plus facilement approcher le monde physique, le monde extérieur, et pouvoir communiquer avec celui-ci, donc communiquer avec un groupe d'humains déjà, puisqu'on communique essentiellement avec des humains, et puis éventuellement avec d'autres organismes. Et c'est pour ça que c'est pour nous très important le travail sur le corps, et qui est à la base du travail d'acteur et qui est essentiel à la constitution pédagogique, enfin éducative pour un enfant. Alors, on le voit, on travaille avec beaucoup on travaille beaucoup en milieu scolaire, et c'est très impressionnant de voir le rapport qu'on a à les enfants en dehors des heures de cours. Ils réagissent d'une manière différente, et puis ça leur permet de s'émanciper aussi. Et juste, je dirais aussi, la contrainte de ne pas parler, ce qui est une contrainte, finalement, dans notre société, on parle beaucoup, mais cette contrainte est aussi très intéressante, puisqu'elle elle permet aussi d'avoir sa place, de se dépasser, de trouver une place dans la société pour un enfant. On le voit avec les ateliers qu'on mène, et puis ça permet de se chercher, de se trouver, de se trouver une identité, quelque part. Voilà.
Pourquoi favoriser la communication corporelle au langage ?
Ben, comme je disais, c'est le geste quand même qui est à l'origine. Le langage, il y a des barrières sémantiques. On est obligé de connaître les codes. Je ne parle pas arabe, par exemple. Et, bon, je parle un petit peu, mais il y aura pour communiquer, on va à un moment donné utiliser les gestes. Et puis, c'est toujours plus beau, je trouve, un geste. Ça nous rapproche, c'est quelque chose de physique, c'est sensible. Un geste est sensible. Après, ça n'empêche pas qu'il faut la langue, il faut travailler les mots, c'est très important. Mais avant le verbe, il y a le corps, et avant le corps, il y a la musique, la musicalité, la vibration. Et c'est pour ça qu'on travaille, pour nous, c'est beaucoup plus important. J'ai travaillé avec des aborigènes en Australie, par exemple, ils parlent 200 dialectes différents. On a commencé pour apprendre la langue, j'ai appris deux langues là-bas. On a commencé par faire des gestes. Et par exemple, je dirais une anecdote, ils me montraient, pour me dire, c'est là-bas. Il m'a montré un soir la lune, et j'ai cru que c'était toujours la lune, et je disais toujours là-bas, enfin tabac, ils disent. Et ils croyaient toujours que tout le monde regardait. Moi, je voulais dire, regarde, c'est la lune. Donc voilà, ça peut faire des. Ouais, ça fait des différences aussi. C'est intéressant.
Donc merci beaucoup, madame, monsieur. On espère vous revoir bientôt.
Et merci à toi, Imane. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. On espère que vous allez passer cette fin de soirée paisiblement, et demain aussi.
Shukran el wajib. Merci beaucoup.
Merci.
L'école apprend la citoyenneté, thème du congrès de la mission laïque aux USU 2016.
Alors nous avons une belle surprise à présent, puisque on a le plaisir d'accueillir avec nous à l'antenne et sur le plateau Madame Claire Brisset, pour laquelle sa foi semble avoir quelques questions.
Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes Madame Claire Brisset. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici à la web radio du congrès. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le concours C'est ton droit ?
Alors c'est un concours qui a été mis au point par la mission laïque française il y a plusieurs années, qui consiste à demander à toutes les écoles du réseau, les écoles, les collèges, les lycées, enfin bref, tout le monde, tous les élèves, de réaliser une production. Alors on les laisse choisir le thème, la façon dont ils font leur production, sur un thème à l'intérieur des droits des enfants. C'est immense, la Convention des droits des enfants, donc on l'a divisé en une dizaine de thèmes. Et on demande que chaque année soit traité un thème. Et cette année, le thème, c'était le droit des enfants de donner leur avis, leur droit de s'exprimer, à la fois sur le monde, la ville, le pays où ils vivent, et aussi sur leur histoire propre. Il y a des enfants qui vivent des choses plus ou moins difficiles. Par exemple, je ne sais pas si leurs parents se séparent. Maintenant, par exemple, en droit français, je ne sais pas comment c'est en droit marocain, mais le juge doit entendre l'enfant. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide, mais il doit donner son avis sur la situation, etc. Donc ça peut porter sur des choses très générales, ce droit de l'expression, ou sur des choses très précises dans la vie de l'enfant, et aussi sur sa vie à l'école.
Je rappelle que vous êtes défenseur ardent des droits de l'enfant.
J'étais défenseur des enfants, oui. Mais maintenant, je fais partie du conseil d'administration de la MLF. J'ai été défenseur des enfants.
Vous les aimez toujours.
Oui, je les défends toujours. Oui, oui.
Considérez-vous que les enfants sont des citoyens à part entière ?
Ah ben bien sûr, simplement, comme ils sont mineurs, ils n'ont pas encore la plénitude des droits. Il y a des droits qu'ils ne peuvent pas encore exercer pleinement. Exemple, ils n'ont pas le droit de conduire une voiture, ils n'ont pas le droit de voter, etc. Donc, il y a des adultes qui les représentent. Ça s'appelle exercer ses droits par délégation. Ce sont des adultes qui les représentent. Mais il y a des quantités de droits, au contraire, qu'ils ont. Et parmi ces droits, il y a plusieurs catégories. Il y a le droit sur lequel la Convention, donc le traité dans lequel tous ces droits sont enregistrés, le droit d'être protégé de la violence, le droit de donner son avis sur la vie, comme ce que je disais, le droit à l'expression, et puis le droit aussi de bénéficier de tout ce dont un enfant a besoin pour vivre et grandir. Exemple, aller à l'école, être nourri, être soigné s'il est malade, etc., etc. Donc il y a trois catégories de droits. Et ces droits-là, c'est la société des adultes qui doit les accorder aux enfants. C'est pas facultatif, c'est une obligation des pays, du Maroc, de la France, de tous les pays, d'accorder ces droits-là aux enfants et d'y veiller particulièrement, parce que justement, comme ils n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas le dire. Oui. C'est pour ça qu'on veut leur donner la parole.
Une dernière question. Pensez-vous que l'éducation à la citoyenneté est indispensable dans la mesure où les enfants réclameraient leurs propres droits, enfin, si leurs droits ne sont pas respectés?
Mais justement, je crois que les enfants, il faut leur expliquer qu'ils sont des citoyens. Oui. C'est pas parce qu'ils sont mineurs, donc ils n'ont pas la majorité, qu'ils n'ont pas voix au chapitre dans la vie de la société, dans la vie de l'école, dans la vie de la famille, etc. Évidemment, dans le respect des droits des autres. Hein, oui. Mais je pense que le fait d'être mineur ne leur supprime pas leurs droits, bien au contraire. Et je pense que le rôle de l'école, c'est de leur expliquer qu'ils seront des citoyens à part entière, c'est-à-dire avec le droit de vote, etc., mais que tout ça s'apprend. Et justement, je pense que l'école est un instrument formidable pour apprendre, enseigner la citoyenneté aux enfants. Et c'est pour ça que le thème de cette année me paraît particulièrement bien choisi.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Vous avez affaire à une ancienne journaliste.
Ah. Moi, on est enchantée.
Oui, j'étais dans la presse écrite, mais quand même.
J'espère qu'on s'en sort bien.
Et je trouve que c'est très, très important ce que vous faites, parce que vous apprenez aussi à utiliser l'outil d'expression.
Oui.
Donc, bravo.
Merci. Merci beaucoup. C'est malheureusement la fin de cette émission et c'était la dernière de la journée. Mais n'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 10h30 pour de toutes nouvelles interventions. Merci d'avoir été aussi fidèles et bonne soirée à tous.
Bravo!
Bienvenue sur la web radio du congrès de la mission laïque aux Huit à Casablanca, du 9 au 11 mai.